VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, l'armée annonce la mort d'au moins 6 militaires dans l'explosion d'une mine dans le centre du pays.
Un collaborateur du président de l'Assemblée nationale du Niger, parmi les 4 personnes arrêtées dans une affaire de trafic de drogue en Guinée-Bissau.
En Algérie, des milliers d'étudiants ont manifesté hier à Alger et dans d'autres villes contre, je cite, une ruse du président Abdelaziz Bouteflika pour se cramponner au pouvoir.
Ici aux États-Unis, l'administration Trump résiste aux appels pour clouer au sol le Boeing 737 MAX 8 qui a connu 2 accidents tragiques en 6 mois.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, l'armée a annoncé hier la mort de 6 militaires maliens. Leurs véhicules ont sauté sur une mine au cours de 2 patrouilles distinctes dans le centre du Mali. Une autre source sécuritaire évoque un bilan de 7 morts. Les précisions de Jean-Roger Bion.
L'armée malienne a indiqué sur son site internet que dans la matinée du mardi 12 mars 2019, 2 véhicules d'escorte des forces armées maliennes ont sauté sur des engins explosifs improvisés, faisant respectivement 2 morts à Dialoubé et 4 morts dans les environs de Hombori, dans la région de Mopti. Un peu plus tard, un autre véhicule de la gendarmerie a sauté sur une mine, tuant 3 autres soldats et non 2, a affirmé une autre source militaire. Elle évoque la mort de 7 militaires maliens alors qu'ils étaient en mission. Malgré la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, une forte présence militaire française et la création de la force militaire régionale G5 Sahel, les violences djihadistes persistent dans le pays, avec 237 attaques recensées en 2018, soit 11 de plus qu'en 2017, selon l'ONU. 2 soldats français de la force Barkhane ont été sérieusement blessés dimanche dans l'attaque de leur campement temporaire près de la frontière avec le Niger. Les autorités maliennes et les forces internationales avaient espéré une baisse des violences dans le centre après avoir donné pour mort fin novembre le prédicateur radical Peul Amadou Koufa, principal chef djihadiste de la région. Mais il est vraisemblable qu'il soit toujours en vie, a indiqué lundi l'état-major français après l'apparition récente dans une vidéo d'un homme présenté comme Amadou Koufa.
Retour sur la saisie record de cocaïne à Bissau le week-end dernier. On a appris qu'un collaborateur du président de l'Assemblée nationale du Niger fait partie des 4 personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. Yacouba Ouédraogo.
Le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale du Niger en question est Mohamed Sidi Ahmed, selon le directeur adjoint de la police judiciaire, Domingos Montero Correa. 2 Maliens et 1 Bissau-Guinéen étaient toujours recherchés hier, selon la police judiciaire de Guinée-Bissau. Dans la nuit du 9 au 10 mars, la police bissau-guinéenne a saisi près de 800 kilos de cocaïne dissimulée dans un camion immatriculé au Sénégal, la plus grande prise de drogue dans le pays depuis au moins 12 ans, selon des sources policières. Les stupéfiants avaient pour destination le nord du Mali, a précisé mardi la police judiciaire. 4 suspects, 2 Nigériens, 1 Sénégalais et 1 Bissau-Guinéen, ont été arrêtés à la suite de cette saisie à la sortie nord de la capitale Bissau. Cette saisie a eu lieu quelques heures avant les législatives dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où l'instabilité et la pauvreté ont favorisé l'implantation de trafiquants de drogue sous la protection de hauts gradés.
Au Nigeria, la Commission électorale nationale a annoncé hier avoir invalidé les résultats des élections au poste de gouverneur dans au moins 6 États de la Fédération nigériane, des scrutins qui devront se tenir à nouveau samedi prochain. Le Nigeria a voté samedi pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 29 des 36 États de la Fédération nigériane. Le vote et ou le dépouillement avaient été annulés dans plusieurs parties des États de Kano et Sokoto dans le nord-ouest, Bauchi et Adamawa dans le nord-est et Benoué et Plateau dans le centre en raison de cas de violence et d'irrégularité.
En Algérie, des milliers d'étudiants ont manifesté hier sans incident à Alger et dans d'autres villes pour dénoncer ce qu'ils ont appelé une ruse du président Abdelaziz Bouteflika pour se maintenir au pouvoir. Ce dernier, confronté à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, avait la veille retiré sa candidature en 5e mandat et reporter sine die la présidentielle. Les étudiants résistent à la prolongation du 4e mandat, ont scandé les manifestants auxquels se sont joints des enseignants.
En tournée pour 3 jours en Afrique de l'Est où l'influence chinoise est grandissante, le président français Emmanuel Macron a prôné hier à Djibouti, puis en Éthiopie, je cite, des partenariats équilibrés et respectueux. Il a annoncé des accords économiques, culturels et de défense avant de signer de gros contrats au Kenya ce mercredi. L'enjeu pour la France est de conserver son influence dans une région stratégique qui suscite les convoitises des grandes puissances, notamment de la Chine, qui a ouvert en 2017 à Djibouti sa première base à l'étranger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Après 2 accidents mortels en moins de 6 mois impliquant des 737 MAX, cette nouvelle génération d'avions de Boeing, plusieurs pays ont indiqué qu'ils n'accepteront plus jusqu'à nouvel ordre ce type d'appareil dans leur espace aérien. Des détails avec Irénée Herman Ungo.
À la suite des interdictions en rafale de la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas, l'Agence européenne de sécurité aérienne a décidé de suspendre tous les vols de ces appareils, qu'il s'agisse des MAX 8 ou des MAX 9, qu'ils soient à destination au départ ou à l'intérieur de l'Union européenne, que les opérateurs soient européens ou issus de pays tiers. L'Inde a également annoncé qu'elle clouait au sol les 737 MAX. Ces avions ne voleront pas tant que des modifications appropriées et des mesures ne seront pas prise pour assurer leur sécurité, a indiqué le ministère de l'Aviation civile. De nombreuses compagnies aériennes ont aussi décidé de bouder ces appareils jusqu'à nouvel ordre. Les 737 MAX sont entrés en service en mai 2017. Plus de 370 appareils de cette famille volent dans le monde. Alors que Boeing se faisait étrier en bourse pour la 2e journée consécutive, le contraste entre la défiance mondiale et la position américaine se fait de plus en plus criant. Les États-Unis n'ont jusqu'ici pas interdit de vol 737 MAX, gamme clé de la stratégie commerciale de Boeing. Washington a toutefois demandé à Boeing de procéder à des modifications techniques.
Selon la Maison-Blanche, le président Donald Trump a eu des discussions, sans préciser avec qui, sur l'appareil en question. Auparavant, Boeing avait dit que son patron avait rassuré M. Trump quant à la sécurité de cet avion.
En Grande-Bretagne, à un peu plus de 2 semaines du Brexit, les députés de la Chambre des communes ont rejeté hier soir par 391 voix contre 242 l'accord de retrait, un accord que leur présentait pour la seconde fois la première ministre Theresa May. Ce nouveau rejet plonge le Royaume-Uni dans une crise politique d'une gravité sans précédent depuis plusieurs générations. Compte rendu de Jacques Aristide.
The eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. So the nose have it.
La sanction est moins lourde qu'en janvier dernier, mais elle laisse la Grande-Bretagne dans la plus profonde incertitude sur l'issue d'un processus amorcé par le référendum du 23 juin 2016. Le plan amendé de Theresa May proposait des garanties, notamment pour éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Un filet de sécurité assorti de la promesse faite par les Européens de ne pas chercher à maintenir indéfiniment le Royaume-Uni dans une union douanière. Mais des assurances qui n'ont pas convaincu les députés tant du Parti conservateur que ceux du Parti travailliste de Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition qui a estimé hier soir que l'heure était à des élections générales. À l'annonce de son nouvel échec, Theresa May, la voix cassée, a dit regretter profondément ce vote, mais maintenu que l'accord était le meilleur possible.
The government will approach these meetings in a constructive spirit, but given...
La chef du gouvernement a réaffirmé sa volonté d'organiser 2 nouveaux votes, le premier dès ce mercredi. Parmi les premiers à réagir, le porte-parole du président du Conseil européen, Donald Tusk, a estimé que ce rejet avait accru de façon significative le risque d'un Brexit sans accord, redouté par les milieux économiques.
L'émissaire spécial américain pour le Venezuela, Elliot Abrams, a dit que l'administration Trump annoncera bientôt, je cite, « des sanctions très significatives contre ce pays ». Il n'a donné aucun détail à ce sujet, se contentant de dire qu'elles incluront des sanctions contre un certain nombre de responsables des agences chargées de la sécurité, la compagnie pétrolière nationale et la banque russo-vénézuélienne. Monsieur Abrams parlait après que le secrétaire d'État Mike Pompeo a annoncé la fermeture de l'ambassade américaine à Caracas et le rapatriement du reste de son personnel diplomatique.
Deux actrices américaines parmi une cinquantaine de personnes ont été inculpées ce mardi dans une affaire de pot de vin destinée à faire entrer leurs enfants dans des universités prestigieuses. Felicity Huffman de Desperate Housewives et Lori Loughlin de La Fête à la Maison ont été interpellées mardi dans la région de Los Angeles, selon une source proche du dossier. Selon l'acte d'accusation, des intermédiaires auraient falsifié les dossiers des enfants, dont le résultat à des examens, afin de faciliter leur admission pour le compte de leurs clients. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Banque d'investissement et de développement de la CDAO a prêté 50 millions de dollars au Libéria pour le financement partiel du projet de construction d'une route de 50 kilomètres reliant Sastown sur la côte est à la localité de Clowin. Ce projet contribue à renforcer la politique de développement des infrastructures du pays. Il va aussi combler le déficit en matière routière qui s'est chiffré à environ 2,6 milliards de dollars en 2018. La compagnie British Petroleum franchit une nouvelle étape dans l'exploitation du gisement gazier Grand Tortue Ameyim, situé entre le Sénégal et la Mauritanie. La tribune révèle que la société vient de lancer les premières commandes d'équipements destinées à la construction de la plateforme d'extraction dont la production devrait débuter en 2022. Les commandes incluent aussi des équipements pour la fourniture et la pose de conduite, des structures sous-marines ainsi que des équipements pour un système de production offshore. Clôturons cette Minute Éco avec l'Arabie Saoudite qui est déterminée à stabiliser et soutenir les cours du pétrole. Le Royaume réduit sa production au-delà des engagements pris dans le cadre de l'OPEP. Bloomberg écrit qu'il prévoit d'extraire moins de 10 millions de barils par jour de l'or noir en mars et en avril, alors qu'il s'était engagé à 10,3 millions de barils par jour. Ces exportations seront aussi contenues à un taux inférieur de 7 millions de barils par jour.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Aubameyang sur la liste du Gabon contre le Burundi.
Oui, malgré ses bisbilles avec la fédération, la star Pierre-Emerick Aubameyang est bien présente sur la liste de Daniel Cousin pour affronter le Burundi lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Depuis Libreville, Ismaël Obiangze nous fait le point de cette liste.
Mon objectif, c'est de hisser haut les couleurs du Gabon lors du match contre le Burundi. C'est ce qu'a déclaré Daniel Cousin lorsqu'il a signé son contrat début mars, soit quelques jours après avoir reçu l'avant-sursol de ses arriérés. Désormais face à ses engagements, le coach des Panthères a dévoilé sa liste de 23 joueurs convoqués pour la mission du 22 mars à Bujumbura. Il s'agit d'une sélection nationale dans l'obligation de s'imposer si elle veut être présente à la CAN Égypte 2019. Daniel Cousin, coach du Gabon.
Celui qui vient sans état d'esprit de gagneur, il n'a rien à faire là. Ça c'est un match, pour moi c'est comme une finale de Coupe du Monde.
En froid avec la fédération et en pleine réflexion sur son avenir international, la star Pierre-Emerick Aubameyang est dans la liste. Reste à savoir si l'attaquant d'Arsenal va honorer sa convocation, sachant qu'il a récemment laissé planer un doute à ce sujet. Pour le reste, on note le retour du milieu de terrain Didier Ibrahim Dong de Guingamp et Malik Evouna qui ont profité du mercato pour retrouver du temps de jeu. Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Suite et fin des huitièmes de finale retour en Ligue des Champions ce soir.
Oui, Lyon mise sur son leader Nabil Fekir pour surprendre le Barça au Camp Nou à 20h temps universel. À l'aller, le club français a su résister aux vagues catalanes 0-0. Dans l'autre rencontre de ce soir, c'est un trio d'attaquants qui est attendu avec Firmino, Mané et Salah, l'arme fatale de Liverpool dans l'Allianz Arena du Bayern Munich. En tête de la Bundesliga, le Bayern vise une huitième qualification consécutive en huitième de finale de Ligue des Champions, compétition qu'il convoite depuis son dernier sacre européen en 2013.
Hier, Cristiano Ronaldo a propulsé la Juventus en quart.
Et oui, battu 2-0 à l'aller, la Juventus Turin a réussi à se qualifier en battant l'Atlético Madrid 3-0 grâce à un triplé de sa star portugaise. Ronaldo a marqué un but dans chaque mi-temps à la 27e et à la 48e avant d'inscrire le but de la qualification sur un pénalty dans les dernières minutes, soit à la 86e. De son côté, Manchester City s'est évité des sueurs froides en étriant Schalke 04 7-0 après avoir déjà gagné en Allemagne à l'aller 3-2. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Indiana et New York, 103 à 98. Philadelphie et Cleveland, 106 à 99. LA Lakers et Chicago, 123 à 107. San Antonio et Dallas 112 à 105, Milwaukee et la Nouvelle-Orléans 110 à 113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, on se souvient aujourd'hui. C'était il y a 3 ans, le 13 mars 2016. Ce pays subissait sa première attaque terroriste avec l'attentat contre la station balnéaire de Grand Bassam à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Bilan, une vingtaine de morts. Notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara s'est rendu sur place à Grand Bassam.
Et moi, j'ai aperçu 2 jeunes en train de tirer vers ici, à bout portant même.
C'était le dimanche 13 mars 2016. Ce jour-là, peu avant 13h, heure locale, des assaillants armés des fusils d'assaut prennent pour cible plusieurs hôtels de la plage du Grand Bassam. Des touristes sont abattus. Une demi-heure plus tard, les forces spéciales ivoiriennes entrent en action. Les terroristes sont neutralisés. Le bilan officiel fera par la suite état de 22 morts, dont 12 Ivoiriens et 7 ressortissants étrangers. 3 ans après, ce drame est toujours vivace dans la mémoire des habitants de Grand Bassam.
Vraiment, c'est un souvenir très, très douloureux. Mais aujourd'hui, c'est du passé. On essaie de se refaire, on essaie de se reprendre, de remettre les idées en place. C'est des très mauvais souvenirs. On prie Dieu pour ne pas que ça se répète.
Conséquence immédiate de cette attaque, les activités touristiques dans la cité balnéaire sont au point mort. Les hôtels sont quasiment vides. 3 ans après, l'Étoile du Sud, l'un des hôtels pris pour cible par les terroristes, se remet progressivement des conséquences de ce drame. Marie-Thérèse Sangaré, directrice générale de l'Étoile du Sud.
C'est vrai qu'on a vraiment des difficultés. Les clients viennent difficilement, ils ont encore peur. La reprise est difficile. On essaie d'aller, mais par rapport à avant 2016, on a perdu la moitié de notre chiffre d'affaires. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore repris.
Moi, j'attends que l'État nous fasse venir régulièrement des séminaires. Vraiment, pour que ça puisse donner envie aux gens de revenir. Si on a beaucoup de séminaires, les Ivoiriens verront que l'Étoile du Sud reprend et il y a la sécurité, puisqu'il y a des séminaires qui se font.
Le petit commerce, autrefois florissant autour de la plage, tente aussi de se remettre de cette attaque.
C'est petit à petit qui s'avance en ce moment, mais c'est un peu compliqué, quoi. Parce que les touristes ne viennent pas en tant que tels. Voilà, on n'a que ceux qui sont là, les locaux, qui viennent juste nous aider un peu dans le travail, c'est tout. Sinon, le travail, ça n'a pas encore repris en tant que tel.
Pour cette touriste iranienne et son hôte, pas question de céder à la peur.
À mon avis, vraiment, c'est parfait, magnifique. Je suis seule même ici. Nous sommes 2 femmes. Et non, pas du tout. Pourquoi on doit avoir peur? Mais on a s'amusé tranquillement avec nos amis ivoiriens ici. Non, ça va parfait.
Plus d'une dizaine de suspects ont été arrêtés dans l'enquête sur l'attentat de Grand Bassam. Cependant, l'homme identifié comme le principal cerveau de l'attentat court toujours. Il s'agit d'un certain Kunta Dalla, de nationalité malienne. Georges Ibrahim Tunkara, Grand Bassam, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Le Burkina Faso a perdu depuis plusieurs années déjà sa place de premier producteur africain de coton. Aujourd'hui, le pays ne produit plus que 600 000 tonnes en baisse de 25%. Une situation qui inquiète les acteurs de la filière qui sont réunis à Ouagadougou. Des détails avec notre correspondant Issa Napon.
Durant 3 jours, des acteurs de la filière coton du Burkina, des représentants du gouvernement et des experts se penchent sur les difficultés qui minent cette filière ces dernières années. Difficultés qui ne sont pas passées inaperçues tant le Burkina a perdu sa place parmi les premiers producteurs de l'or blanc en Afrique. Cela explique la forte volonté du gouvernement burkinabé de travailler à renverser la tendance à travers 2 grandes décisions, soutient le directeur général de la Société des fibres et textiles du Burkina, Wilfried Diamyogo.
La première, c'est d'octroyer une subvention de 5 milliards de francs CFA pour l'appuiement de la dette interne des producteurs dans la zone Sofitex. La deuxième décision qui a été prise, c'est que l'État burkinabé a décidé d'apporter une subvention aux intrants de la campagne 2018-2019 à hauteur de 9 milliards 614 millions de francs CFA.
Plus de 4 millions de personnes tirent leurs revenus des activités cotonnières. C'est pourquoi le gouvernement se devait de sonner la relance de la filière en travaillant à redresser les contre-performances de ces deux dernières campagnes. Rien ne sera occulté sur l'ensemble de la chaîne pour réussir, Martel, le président du comité de haut niveau institué par la présidence du FASO. Haruna Kabore est le ministre en charge du commerce.
Nous traitons la question donc de la production, de la productivité, la question de la commercialisation, les questions exogènes, les facteurs qui contribuent à la production, pour que nous puissions trouver donc des solutions définitives. Et là, nous avons impliqué tout le monde. Nous avons impliqué et les cotoniculteurs et les sociétés cotonnières, les partenaires techniques et financiers et aussi la recherche, pour que déjà la campagne qui démarre là, nous puissions être tous d'accord sur les intrants utilisés, leur qualité, que nous puissions tous d'accord sur ce qui va être fait, sur les questions donc des terrains, le choix effectivement donc de pesticides, tout ce qu'il faut déjà pour cette campagne. Dans le processus d'industrialisation, nous allons travailler à rapprocher les unités donc d'égrénage et aussi donc de filature donc dans les zones cotonnières pour que ceux qui sont dans le domaine puissent énormément bénéficier des avantages de la filière.
Le coton qui contribue à plus de 4% au PIB national et à plus de 20% des revenus agricoles du pays est longtemps cité en exemple dans le monde, traverse aujourd'hui des difficultés liées aux caprices de la nature, de la qualité des intrants et de l'infestation parasitaire entre autres. Cet atelier devrait trouver un remède adéquat pour que la filière retrouve son lustre d'antan. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Congo-Brazzaville, les autorités appuyées par une ONG britannique, le Fonds mondial pour la nature, veulent créer un cinquième parc national. Seulement, les populations rivennes ne sont pas tellement d'accord. Et le Fonds est obligé d'organiser une consultation auprès des populations. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Sévra.
C'est pour la première fois dans la création des parcs nationaux au Congo que les communautés sont directement consultées. Sont-elles d'accord ou pas de vivre dans le voisinage d'un parc national? L'idée en elle-même paraît surréaliste que les populations estiment que cette consultation n'est qu'un bluff. Ici à Soanké, au quartier Ngoman, les voix s'élèvent.
Nous aussi, ici, on a besoin de l'école, on a besoin de l'hôpital. Là, ça peut nous aider aussi dans le village aussi. Mais pour le parc, on a besoin du parc.
Plus loin, au village Dia, dans le district de Sembe, le conflit homme-éléphant complique le processus de création de la réserve Messor Dia. Les populations posent leurs conditions.
Dévastation des champs, ceci, cela, ce que nous disons, nos déléances qu'on amène selon le VVF, l'État, le gouvernement. Donc, il n'y a pas de suite. Avant, il n'y avait pas de parc. Nos biens sont dévastés. Aujourd'hui, si on met le parc, on va vivre comment? On va manger quoi? Moi-même, j'ai perdu 5 hectares de champs de bananiers, de jeunes cacao pétiné, des manioc détruits, on veut dire, tout ça là, donc ça fait mal au cœur.
C'est pour lever tous ces écueils que l'ONG britannique, le Fonds mondial pour la nature, VVF, organise des consultations pour expliquer l'intérêt de cette aire protégée. Un consortium d'ONG a même été mis en place pour faire le boulot. Martial Dimi, de la Brain Forest du Gabon.
L'un des préalables de notre travail, c'est déjà de préciser aux communautés qu'elles ne doivent subir aucune pression, quelle que soit la source. Cette pression ne doit pas venir de nous, en tant que facilitateurs et qui avons la responsabilité d'implémenter le CLIP. Cette pression ne doit non plus venir des autorités locales, elle ne doit pas également venir du VVF.
Lilian Barros, du comptoir juridique junior du Congo.
Il faut qu'il y ait d'abord cette consultation-là pour que les communautés donnent leur avis ou leur point de vue en connaissance de cause. Et en même temps, que les communautés connaissent aussi quels sont les droits qui seront appliqués quand on aura mis en place l'aire protégée et quelles sont les restrictions qui vont arriver.
Les populations estiment que les autorités finiront bien par se passer de leur avis. Pourquoi alors les distraire par cette consultation? Mais Dieudonné Patrice Ekutuba Bobomela, coordonnateur de l'espace Tridoum Interzone Congo, pense le contraire.
Les études sont vraiment avancées avec les populations riveraines qui sont tout autour de la nouvelle aire protégée qui est en création. À ce niveau, on a déjà identifié les zones d'activité de ces communautés autour du parc ou bien dans le nouveau aire protégée qui vont se créer.
Pour l'heure, les débats se poursuivent et diverses interprétations émaillent le processus de création du futur parc national Messok Dia. De retour de Soanké dans la Sanga, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Les États-Unis vont retirer tout le personnel diplomatique encore présent dans leur ambassade à Caracas à raison de l'aggravation de la crise au Venezuela. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État Mike Pompeo en affirmant que la présence de son personnel diplomatique est devenue une contrainte pour la politique de Washington. Eric Manirakiza a joint à Paris le chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine, Christophe Ventura.
C'est une péripétie, en fait, un épisode qui vient s'inscrire dans une séquence de long terme, qui est celle engagée avec l'épreuve de force qui a démarré le 23 janvier. En soi, cette nouvelle, aujourd'hui, ne constitue pas une nouveauté ou une rupture. C'en est une, bien sûr, mais c'est un épisode de plus dans la lente trajectoire de rupture entre Washington et Caracas.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit que la présence de son personnel diplomatique est devenue une contrainte pour la politique de Washington. Est-ce un prélude au recours de l'usage de la force?
C'est vrai que la formule est assez mystérieuse. On peut l'interpréter comme ça. Effectivement, ça laisse entendre que la présence d'officiels américains à Caracas empêcherait, une intervention ou quelque chose que les États-Unis s'apprêteraient à faire sur le territoire vénézuélien. Ça évoque en tout cas ce type de choses-là. Il va falloir suivre les précisions que va apporter Washington.
Et quel est le risque d'une intervention militaire américaine?
Écoutez, il est réel. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit tout simplement de prendre au sérieux les propos de l'administration de Donald Trump, du président lui-même, de son secrétaire d'État, de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. La question d'intervention, elle reste tout à fait viable. Elle est également assumée comme telle par M. Juan Guaido, à la différence de la plupart de ses alliés latino-américains qui ne veulent pas l'usage de la force, c'est leur limite. Mais en même temps, les conditions pratiques, concrètes pour une intervention au Venezuela ne semblent pas être réunies.
Washington a durement attaqué Cuba et la Russie pour leur soutien au président Maduro. Est-ce qu'on peut dire que la Havane et Moscou ont finalement eu le dessus sur Washington?
Non, je pense que Cuba et la Russie s'opposent dans les domaines où ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas contrer les États-Unis sur le domaine des sanctions commerciales, financières et économiques, par exemple, et ils ne peuvent pas non plus contrer Washington, le cas échéant, à cette étape sur la dimension militaire. Se précisait, le pouvoir et la puissance de la Havane et de Moscou restent quand même assez limités par rapport à la force de frappe des États-Unis, mais sur le terrain diplomatique, peuvent jouer d'égal à égal, surtout Moscou, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Quand on est baptisé par la douleur, on ne craint plus le malheur. Et on sait ce qui c'est que le bonheur, maman Catherine, mère supérieure.
I know.
aujourd'hui. VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.